tous. Voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Et je suis ravie de recevoir dans le studio aujourd'hui Judith Doré. Bonjour Judith.
Bonjour Marie-Christine.
Et tu es venue nous parler de guérison et notamment de la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc aujourd'hui, notre texte se trouve dans l'Évangile de Marc, au début du ministère de Jésus en Galilée.
Oui, après l'appel des premiers disciples sur leur lieu de travail, nous avons le récit d'une suite d'actes miraculeux dans un lieu religieux, la synagogue pour commencer, ensuite dans un lieu privé et finalement dans l'espace public. Donc Jésus enseigne aussi.
D'ailleurs, les miracles et l'enseignement se trouvent étroitement liés. Mais avant de lire le texte biblique, nous prions.
Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux dire aujourd'hui. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Oui, Christine, est-ce que tu peux nous lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39?
Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d'André en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit parce qu'elle avait de la fièvre. Dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville dans un endroit isolé, et là il se mit à prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ainsi, il alla dans toute la Galilée, il prêchait dans les synagogues de la région et il chassait les esprits mauvais.
En quittant la synagogue, Jésus va chez Simon et André, avec deux autres disciples, Jacques et Jean. Et nous avons déjà parlé de l'appel des tout premiers disciples sur leur lieu de travail. Et nous avons vu qu'ils ont aussitôt suivi Jésus. Les voici maintenant témoins des premiers miracles de Jésus. Au verset 29 à 31, nous avons un récit de guérison et de vocation. Un récit tout simple, sans cri, sans foule, très sobre. La guérison d'une femme dont nous ne savons pas le nom, elle est identifiée simplement comme étant la belle-mère de son gendre. Alors, quelques questions pour commencer, Marie-Christine. De quelle ville s'agit-il? Quel jour est-on? Et Jésus, il va d'où à où?
Alors, il se trouve à Capharnaüm, et c'est le jour du sabbat. Jésus quitte la synagogue pour aller dans la maison de Pierre.
Oui, la belle-mère de Pierre est malade. Elle est couchée avec de la fièvre.
Oui, il me semble qu'à l'époque de Jésus, on pense que la maladie était due à une faute ou à un péché.
Oui, c'est exact. À l'époque, on lie la maladie et le péché. La relation avec Dieu est rompue et souvent le malade se trouve seul, exclu, marginalisé, comme on l'a vu avec Bartimée. Et comme Jésus guérit, il fait plus que de guérir le corps. Il rétablit la personne dans sa relation avec Dieu, avec les membres de sa famille. Et nous sommes invités à voir dans les guérisons de Jésus, non pas de simples miracles, mais des paroles qui annoncent un message, le royaume de Dieu. Les guérisons ont une portée symbolique, donner la vue, faire marcher, faire vivre. Et dans Marc, toutes les parties du corps sont concernées à tour de rôle par les miracles. Les yeux, l'ouïe, la main, les jambes, le sang, la peau. Et ce n'est pas un hasard. Marc veut signifier que le Christ guérit l'homme en entier. Dieu fait signe à tout homme. Il entre en dialogue avec lui.
Et pour revenir à notre histoire, la belle-mère de Pierre est couchée.
Peut-être que la belle-mère de Pierre a de la fièvre parce qu'elle est contrariée. Le Nazaréen, ce Jésus ou Yeshua, est un inconscient. Il appelle les hommes à quitter leur métier. Et dans cette famille, Simon et André ont tous deux quitté pour suivre Jésus. Et pas seulement cela, mais maintenant, ce Yeshua, il s'invite à la maison. Il y a de quoi la rendre malade. Je viens de relire le livre « L'ombre du Galiléen », qui est un récit romancé écrit par un théologien, Gerd Tyson, à partir des sources historiques de l'époque de Jésus. Et il raconte le désarroi des familles qui voient leurs enfants quitter tout pour suivre Jésus. Et ils ne comprennent pas qu'ils laissent leurs vieux parents dans la difficulté. Comment survivre sans ces jeunes hommes qui font vivre la famille?
Donc, peut-être en effet que la belle-mère est fiévreuse parce qu'elle est contrariée.
Qui sait? Et nous, comment vivons-nous nos contrariétés? Dans la famille. Et pour les jeunes, c'est souvent la famille qui est la source des contrariétés. Ou dans le milieu professionnel. Et même dans la paroisse. Dans notre monde, il y a tant d'injustices. Des gens qui meurent de faim, pendant que les pays riches vivent dans l'abondance. La maladie et les épreuves qui semblent toujours frapper les mêmes familles. Il y a de quoi être révolté. Et nous vivons tous des contrariétés. Si nous sommes au point d'être immobilisés, alors il est temps que Jésus vienne nous prendre par la main pour nous relever, que nous puissions voir les choses en face, voir la réalité de notre vie. Et qu'il ouvre nos yeux sur les bienfaits de Dieu qui ne manquent pas. Que nous soyons capables de discerner sa présence dans la banalité de nos vies. Jésus n'est pas un Dieu lointain. Il est quelqu'un qui s'invite chez nous dans notre quotidien. C'est vrai, il est plus facile d'y penser quand nous allons à l'église, au culte, à la messe, ou avec la présence d'un pasteur ou d'un prêtre. Avec des moments de prière qui ponctuent la journée.
Il est vrai que dans nos familles ou sur notre lieu de travail, c'est plus difficile.
Oui, mais il faudrait penser à retrouver nos frères et nos sœurs pour des moments de culte et de prière, au milieu du tohu-bohu, ou le capharnaüm, de nos vies de tous les jours. Thank you.
finalement, ce passage court, juste quelques versets, qui a l'air d'être seulement un passage mineur de transition, contient un message plus important que cela n'en a l'air au premier abord.
Il y a deux mots forts qui structurent l'histoire. D'abord, le mot « résurrection ». Lorsque Jésus prend la main de la belle-mère, il la relève. C'est le même mot utilisé par Marc pour la résurrection dans le chapitre 16 en parlant de Jésus. Et Marc fait ce lien consciemment. Jésus est le sauveur qui met debout celles et ceux qui sont terrassés par le désespoir, l'isolement et l'éloignement de Dieu. En prenant sa main, Jésus opère une guérison plus profonde que de simplement faire tomber la fièvre de la belle-mère. Il n'y a pas de parole de Jésus, juste un geste. Et parfois les gestes parlent plus fort que les mots. Il faut les deux. Jésus met ses paroles en acte.
Premier mot fort, donc résurrection.
En se laissant toucher par Jésus, la belle-mère trouve un nouveau sens à sa vie. Elle se lève, elle est ressuscitée pour servir. Le deuxième mot fort dans ce passage est le service des autres, la diaconie en grec. La fièvre la quitta et elle les servait. Jésus n'a pas ramené cette femme à la vie, rétablie dans sa famille et dans sa relation avec Dieu, juste pour le plaisir d'être en bonne santé. Dieu, par le Christ, nous guérit. Il nous rend la santé, l'espoir, l'amour, mais ce n'est pas une fin en soi. Être en bonne santé, se sentir bien, vivre longtemps, mais pourquoi faire?
C'est vrai qu'on peut parfois se le demander.
Ces dernières semaines, nous avons beaucoup entendu « Bonne année, tous mes vieux ». Et très souvent, la personne ajoute « Et bonne santé surtout ». La santé est devenue dans notre société presque une idole, une valeur en soi. On fait de la gymnastique, on fait attention à ce qu'on mange, on court. La belle-mère de Pierre retrouve sa santé, mais pas pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle se met à les servir.
Si elle ne se met pas au service des autres, sa santé ne sert à rien. Si Simon-Pierre est le premier apôtre, sa belle-mère est bien le premier diacre. Elle est conduite à prendre sa place dans la communauté des disciples. Une communauté a besoin de pasteurs, de prédicateurs laïcs, de conseillers presbytéraux, de conseils d'église. Mais elle a besoin d'hommes et de femmes qui accomplissent humblement de modestes tâches, ponctuellement, ou dans la durée. Des tâches peut-être plus modestes, mais moins voyantes, mais tout aussi importantes. Bien sûr qu'il faut des gens comme le pape François, comme Emmanuel Sebolt, qui est présidente de l'Église protestante unie, de François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, les grands prédicateurs. Mais nous aussi, nous avons tous notre place. Aussi humble soit-elle, au service de nos frères et sœurs. Il y a des cèdres du Liban, des chênes majestueux, mais il y a aussi de toutes petites fleurs, des pâquerettes, des violettes, la beauté et la simplicité de Dieu.
Au début de l'émission, nous avons évoqué les différents lieux de témoignage de Jésus.
Et nous reviendrons dessus la semaine prochaine dans la suite de ce passage. Au verset 29, on voit que Jésus quitte la synagogue pour aller dans la maison. Après la synagogue, lieu religieux, nous avons la maison comme lieu de guérison et de résurrection, et lieu de service et de mission. La maison est notre lieu de vie. On voit l'importance du service dans le quotidien, dans la banalité du quotidien. Et c'est là notre premier lieu d'engagement.
Bon, pour résumer.
Alors, la guérison a un sens symbolique qui dépasse la simple guérison du corps. Si nous n'arrivons pas à surmonter nos contrariétés, nous avons besoin de nous laisser toucher par Jésus. Jésus relève la belle-mère de Pierre. Il la ressuscite en quelque sorte. Et le message ici est que la résurrection n'est pas seulement pour la fin des temps, mais est pour maintenant notre vie de tous les jours. Jésus vient dans la maison. Jésus nous relève tous les matins. Il vient nous chercher là où nous en sommes, dans la banalité de tous les jours. Ensuite, on peut dire que nous sommes appelés à des tâches modestes au service des autres.
Donc, nous pouvons entendre une guérison, une résurrection dans notre vie de tous les jours, et nous sommes appelés à des tâches modestes.
Alors, laissons-nous prendre par la main, levons-nous, relevons-nous, et vivons au service du Christ et de nos prochains, ce qui est finalement la même chose. Amen. Bon.
Amen. Et pour terminer cette émission, je vous invite à la prière. Seigneur, nous entendons ton évangile. Tu nous invites à nous relever et nous mettre au service des autres. Nous vivons trop souvent dans l'agitation et la futilité. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous devons nous convertir. Apprends-nous à inscrire ta nouveauté dans nos habitudes, ton espérance dans nos lassitudes, ta présence dans notre solitude et ta paix dans nos inquiétudes. Tu nous relèves et tu nous mets en route. Que ton esprit nous bouleverse, que ta parole nous transperce, que ton amour nous rafraîchisse et que ton évangile nous convertisse. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Merci Judith.
Merci Marie-Christine.
Au revoir et à bientôt.
À bientôt.